Moi, je m'appelle Pierre Molis, je travaille pour l'association Tapage France et j'accompagne aujourd'hui le programme de Tapage Montpellier qui est composé de Julie et Alexis que je vais laisser se présenter.
Rebonjour, c'est de nouveau moi. Voilà, Julie, du coup, qui est monitrice éducatrice au Caru de la boutique et donc référente de Tapage, le programme dont on va vous parler. Ah oui, bah oui, parfait.
Et Alexis Chinois, je suis hyper spécialisé sur le carré de la boutique aussi et sur la page de l'enfant.
Voilà.
Donc pour débuter cette présentation, on va revenir un petit peu sur l'historique de Tapage. Car à savoir, c'est que Tapage est né donc dans les années 2000 à Montréal, au Canada. Donc il s'était porté par une association qui s'appelle Spectre de rue. Et c'est donc dans les années 2012 que notre délégué national, Jean-Luc Morales, est revenu avec cette idée dans les bagages et a expérimenté le dispositif Tapage dans un premier temps sur la ville de Bordeaux. Et c'est dans les années 2014 où le dispositif a déjà été repéré par la MILDECA, qui a demandé une expérimentation du dispositif sur différentes villes, donc à savoir 10 villes territoires, donc essentiellement des métropoles comme Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Marseille et autres. Et c'est à partir de 2016 que Tapage France a été créé. Donc Tapage France, c'est l'association pour laquelle moi je travaille, et l'idée c'est de pouvoir accompagner l'ensemble des dispositifs dans leur montage et dans leur ancrage territorial. Donc actuellement, on a plus de 360 partenaires publics, privés, collectivités et autres. Et en Occitanie, nous avons donc actuellement 9 programmes. Donc celui de Montpellier qui vous intéresse aujourd'hui. En 2018, on a eu également le soutien de l'État en inscrivant donc Tapage dans la stratégie de lutte nationale contre la pauvreté. Et cette confiance a été renouvelée donc en 2023, en inscrivant Tapage dans le pacte des solidarités jusqu'en 2027. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement Tapage? Donc, comme le nom l'indique, c'est travail alternatif payé à la journée. Donc, alternatif, ça va être l'ensemble des techniques que les jeunes peuvent mettre en place pour avoir une rémunération, si je peux dire. Donc, la manche, le deal, le larcin, la prostitution et autres. Donc, l'idée, c'est de leur proposer une alternative à ces techniques-là, donc qui va passer par un temps de travail. Et ils vont être rémunérés à la fin de ce temps de travail en liquide, ce qui va leur permettre de répondre à leurs besoins primaires, comme se nourrir, se loger, se vêtir et autres. Donc, depuis 2016, c'est plus de 7600 tapageurs, donc c'est les jeunes qu'on accompagne, qui sont donc âgés entre 16 et 25 ans et en situation de grande précarité. En 2024, c'est plus de 53 000 heures de plateau réalisées par ces jeunes-là. En 2024, on a accompagné un peu moins de 2000 jeunes. Et parmi ces jeunes-là, on a des sorties positives, donc à peu près 660 jeunes qui ont quitté le programme en 2024. À la sortie du programme, il y a 61% des jeunes qui ont une prise en charge addicto et également une sortie positive autour de l'emploi. Donc, c'est-à-dire que quand ils sortent du dispositif, ils ont soit un CDD, soit un CDI, soit une activité par l'insertion économique ou bien une reprise de formation, somme toute classique. Donc, voilà pour cette première partie de présentation. Et je vais laisser maintenant la place à une...
Petite vidéo
témoignage donc des éducateurs Tapage, référents Tapage qui peuvent travailler au niveau national.
Ça marche. Alors, ouais. C'est ça. Non. Hop. Voilà.
Donc voilà un petit témoignage de nos collègues Tapage un petit peu répartis sur la France. Donc comme vous avez pu le voir sur ce témoignage-là, déjà, le dispositif est porté seulement par des XAPA ou des CARUD. Ce sont les deux seules structures qui sont en capacité de pouvoir porter le dispositif. Après, vous avez pu voir également passer du Tapage & Co, qui est également une expérimentation qu'on mène au niveau de Tapage, parce que Tapage est issu d'une innovation et on aime bien pouvoir continuer à innover au quotidien. Et donc Tapage & Co est adressé aux jeunes qui ont plus de 25 ans, enfin au public et qui ont plus de 25 ans. Parce que l'idée, c'est qu'on n'a pas envie de lancer un programme qui ne peut pas convenir à tout le monde. En parallèle, on mène également des expérimentations, notamment sur la ville de Paris, sur les publics consommateurs de crack. car la modalité tapage du temps de travail de 4 heures n'était peut-être pas la modalité la plus fonctionnelle et la plus pratique pour eux au vu des consommations et au vu de ce que ça peut engendrer quand ils consomment du crack, plus de fatigue, plus de fragilité et autres. Et donc il y a des expérimentations également qui sont menées sur ces publics-là pour pouvoir adapter le dispositif tapage auprès de ces publics. Mais maintenant, je vais laisser le témoignage à Tapage Montpellier qui va vous parler plus spécifiquement de ce qu'ils font eux au quotidien sur Montpellier et sur les jeunes qui peuvent accompagner.
Merci Pierre.
Hop, ça. Alors, je vais vous parler après de concrètement sur les chantiers, comment ça se passe. D'abord, je vais vous parler des profils des jeunes et de l'accompagnement global qu'on met autour. Parce que au-delà de l'aspect insertion pro, même si Tapage, ça prend en compte cette dimension, ça reste avant tout une démarche addicto. Tous les jeunes qui participent à Tapage ont une problématique addictive. Les jeunes sont. Alors nous, on accompagne des jeunes qui sont principalement dans la précarité. Le plus souvent, qui sont à la rue, soit quand il peut aussi y avoir des jeunes qui sont dans des structures d'hébergement, des MJT, des CHRS, ou hébergés par des tiers, mais souvent de façon instable. Il peut y avoir des jeunes qui ont des ressources comme le CEG ou l'AH, mais on essaie de favoriser au plus les personnes qui sont sans ressources. Et voilà. Après, on essaye, même si on essaie de faire attention à la priorité, on essaie de faire un roulement, parce qu'il y a beaucoup de demandes, et malheureusement, avec les moyens qui nous sont partis, on a assez peu de plateaux pour répondre à toutes ces demandes. Les principaux produits qui sont consommés par les jeunes que nous on voit en tout cas sur Montpellier, ça va être cannabis, alcool, kétamine, scénan et
crack.
Et cocaïne basée. Beaucoup. Donc tous ces produits, l'idée de Tapage du coup, c'est vraiment d'avoir un levier pour la relation éducative. Que ce soit durant les plateaux ou même autour des plateaux, donc à savoir avant et après, avec pour but de voir un petit peu, d'affiner un peu le projet de la personne, de voir un peu si elle arrive à se projeter déjà et de lever un peu les freins aussi que les produits peuvent avoir dans leur quotidien. Voilà. Donc pour la mise en lien, il peut y avoir, ça peut être par orientation, la mission locale nous contacte régulièrement pour nous orienter des jeunes. En fait, n'importe qui en soi peut nous orienter des jeunes, à condition qu'il y ait une problématique affective finalement. Après, on s'inscrit aussi dans une démarche d'aller vers, on a mis en place des partenariats du coup, pour ça, notamment avec APS 34. L'équipe du centre-ville où on fait des permanences sociales. Donc on a route de la gare à tous les Cuissons et l'avenue de la zone autour de l'avenue Clémenceau. L'objectif de ces maraudes, c'est de repérer un petit peu les lieux où ça peut, enfin les lieux de rencontre, on va dire, où ça peut donner, où faire la manche, tout ça, pour créer du lien avec les jeunes qui sont à la rue et qui ne. On peut voir dans la rue qu'ils ne viennent pas forcément sur les dispositifs et pouvoir croiser aussi les regards en termes éducatifs. On a aussi créé un accueil de jeunes, même si le Carmule a une spécificité femme. On a tous les mardis après-midi un accueil spécial jeune, donc moins de 25, qui pour le coup est mixte. APF 34. Viennent des fois sur ces temps d'accueil pour revoir certains jeunes qu'on aurait pu croiser en maraude. Il y a le 10 de Corus également qui vient sur cet accueil, quand, ou alors nous on va sur le 10 de Corus. Quand nous on y va, du coup, alors, l'un ou l'autre, ça reste le même travail. Nous quand on y va toujours avec un petit peu de matériel de réduction des risques. On peut aussi laisser là-bas, on laisse pas beaucoup, l'objectif c'est aussi de ramener un petit peu sur la structure de l'RDR. Mais ça permet aussi une complémentarité en termes d'accompagnement, étant donné que nous, le temps qu'on a sur Tapage, ça ne permet pas toujours de faire de l'accompagnement global. entretenir un lien avec certains partenaires comme ça pour être dans une démarche un peu plus globale. Sur l'accueil jeune, du coup, ça permet aussi d'avoir un temps libre adhésion, où on peut parler un peu de tout et de rien, on peut affiner voir les personnes en entretien, voir un petit peu s'il y a besoin de faire des demandes d'hébergement, de l'accompagnement social. Après, il y a aussi tous les services du terme habituel, à savoir les longs termes, l'accès à la douche, à une buanderie. Et évidemment, tout ce qui est matériel de réduction de risque et les conseils de réduction de risque. Il y a également un partenariat avec l'UNIP qui intervient, notamment en psychologue. L'objectif de ce partenariat, c'est de favoriser l'accès aux soins et de maintenir le lien avec ces jeunes. Ça peut. Il peut y avoir une certaine réticence de la part des jeunes qui ne sont pas forcément. Qui sont pas forcément ouverts à l'accompagnement aussi au premier abord. En tout cas, ce que nous, on voit. Moi, j'ai. Alors, Julie, tu confirmes ou non, mais personnellement, je trouve que le public jeune femme est quand même moins réticente à l'accompagnement aussi que les jeunes hommes. Il y a plus souvent des demandes, pour le coup. Et voilà, on peut passer sur les chantiers.
Ça marche. Oui, alors moi je vais vous parler un peu plus du fonctionnement, de la façon dont se déroule une journée type lorsqu'il y a un plateau tapage. Donc en fait, déjà pour commencer, il faut que le jeune qui s'adresse à nous. Ah, pardon, vraiment, c'est pas mon truc. Je vais faire comme ça. Le jeune qui s'adresse à nous, s'il souhaite s'inscrire au programme tapage, il faut qu'il soit en mesure de fournir. On ne demande que deux documents, mais bon, ils sont quand même indispensables, on est soumis à ces conditions. Et donc, il faut un numéro de sécurité sociale, carte vitale ou attestation de droit, et une CNI, enfin une carte d'identité. Mais ça peut être aussi, on a une petite souplesse là-dessus, parce que très souvent, les jeunes qui sont à la rue, ils perdent leurs documents, c'est un petit peu compliqué, et puis après, ça prend du temps pour tout refaire. Donc, la photocopie d'une pièce d'identité, ça peut suffire à procéder à l'inscription pour tapage. Voilà. C'est les deux seules conditions. Il faut avoir 18-25 ans, comme Pierre et Alexis l'ont dit. Donc, les jeunes viennent nous voir le mardi après-midi, s'ils souhaitent s'inscrire. On les reçoit en aparté, on leur explique un petit peu le fonctionnement. On est quand même un cas rude, donc on cible un public de consommateurs. Alors après, c'est toujours délicat. Vous imaginez bien que quand je reçois un jeune dans le bureau, je lui dis « alors, tu te drogues ?» Parce que si tu ne te drogues pas, tu ne peux pas venir. C'est un peu compliqué de faire ça comme ça. Et puis, on sait aussi que certains vont pouvoir parler de leur consommation, mais pas dès la première rencontre. Donc, au pire des cas, le jeune s'inscrit, participe. Et puis finalement, si on se rend compte au fur et à mesure... de la relation qu'il n'est pas forcément concerné ou que ce n'est pas pertinent qu'il reste sur ta page parce qu'être au milieu d'autres consommateurs, ce n'est pas toujours l'idéal quand soi-même on ne l'est pas. Hein. L'idée, ce n'est pas d'entraîner les personnes qui ne consomment pas à l'inverse, même si on n'a aucune injonction et qu'on n'est pas dans un jugement vis-à-vis de ça. Mais bon, du coup, si on estime que ce n'est pas le bon endroit, on fera ensuite ce travail de réorientation pour accompagner vers des associations comme La Pige, par exemple, ou je ne sais quoi, mais quelque chose qui convient mieux à la situation. Voilà, donc on reçoit le jeune, on lui explique un petit peu tout. S'il est prêt à parler de ses consommations, on fait un petit point là-dessus quand même, parce que... À Montpellier, ce n'est pas tous les programmes tapage qui fonctionnent comme ça, mais en tout cas, à Montpellier, nous, on prend le parti pris de ne pas interdire la consommation durant le plateau. Alors, pas pendant le travail, évidemment, mais ce sont des adultes, Ils sont en pause. Je ne vais pas suivre tous les adultes en pause quand ils s'éloignent un petit peu. Et si toutefois il y a de la consommation, je ne serai pas là à leur courir après pour surveiller ça. Donc le deal, si j'ose dire, c'est que si toutefois il y a de la consommation, il faut que cette consommation elle soit un tant soit peu gérée. Dans l'idée où elle ne doit pas venir entraver le déroulement de la mission. Donc si, souvent, le cas de figure qui se présente, c'est qu'on a des jeunes qui peuvent consommer du cannabis. Et c'est une béquille parce que, ben, quelquefois, quand c'est la première fois, ils angoissent. Donc au moment de la pause, ils vont aller tirer quelques taffes sur un pétard. Alors nous, on leur demande évidemment de se mettre à l'écart parce qu'on n'impose pas sa consommation aux autres, parce qu'on est sur du collectif et on ne peut pas arriver et ne pas se soucier de là où en sont les autres. Donc si toutefois quelqu'un essaye d'arrêter, ben, c'est pas cool qu'il y ait un jeune qui lui fume sous le nez. Mais et il faut aussi qu'elle soit gérée de manière à ce que ben, il faut pas revenir complètement faya et ne plus pouvoir mener la mission à bien. Donc ça, c'est ce qui est dit dès le départ. Généralement, en partant sur ce principe, ça fonctionne assez bien. Bon, il y a toujours quelquefois de la petite régulation à faire là-dessus, mais c'est aussi notre travail que d'accompagner cette consommation. Et puis aussi de permettre aux jeunes de se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas non plus complètement indispensable. Et c'est arrivé que des fois, elle soit là les premiers temps, surtout pour rassurer, je pense. Et puis finalement, après, il n'y avait plus besoin. Après, il y a autant de situations que de personnes, j'ai envie de vous dire. Je pense notamment à une situation vécue où on avait le cas d'un jeune homme qui était addict à l'alcool. Et donc, on sait un peu ce que peuvent donner les symptômes liés au manque d'alcool. C'est très handicapant. Donc là, on était carrément sur un travail de zone de confort, je ne sais plus si c'est le bon terme. Mais du coup, ce jeune homme, il se levait à 8h du matin, il dormait dehors. À 8h du matin, il était devant la boutique pour venir bosser 4h et toucher ses 44 euros. Et donc, sauf qu'après, il était rattrapé par les symptômes liés au manque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il commençait à trembler trop et ça ne pouvait pas lui permettre de mener la mission à bien. Donc, à partir de là, ben, on a travaillé ça ensemble. On a dit, ben voilà, on va sur les temps de pause, on va t'avancer quelques euros pour que tu achètes une canette avant qu'on parte au travail. Et puis, sur tes temps de pause, tu consommeras juste ce qu'il faut pour pouvoir, pour ne pas trop subir, quoi. Donc, ça a un peu fonctionné. Ça a carrément fonctionné même. D'ailleurs, il a continué à cheminer. Maintenant, on ne le voit plus. Hein. Il a passé les 25 ans. Mais je sais que je crois que c'est derrière hein, ces problèmes d'alcool, en tout cas pour l'instant. Et je lui souhaite que ça dure. Donc voilà, comme quoi c'est possible. Ce n'est pas courant. Ce n'est pas comme ça qu'on envisage le travail dans un milieu normalisé, si je puis dire. Mais du coup, nous, il faut vraiment considérer que le travail, on l'utilise comme outil RDR, outil de réduction des risques. Donc, quand on parle de plateau de travail, souvent, on a tendance à penser à des chantiers d'insertion. Tapage, moi, je le mettrai pas à cet endroit-là. Je le mettrai avant, comme un tremplin pour passer ensuite à autre chose. Mais là, c'est l'inverse. C'est utiliser le travail, la mission de travail, comme outil RDR auprès de consommateurs, puisque ça va véhiculer tout un tas de choses. Il y a le lien social avec l'équipe de travail, il y a, comme je disais dans la vidéo, le travail côte à côte, où c'est vrai que quand on partage une tâche ensemble, éduque et jeune, accueilli, on est un peu sur un pied d'égalité, on fait la même tâche au même moment, donc voilà, ça, dans la symbolique, c'est intéressant. Et donc voilà, c'est un super outil RDR. Et en plus, c'est un peu intéressant puisque du coup, à la fin, ils repartent avec une somme en liquide et un sentiment un peu valorisant, je crois, parce que ben ils viennent, ils se lèvent, ils font la mission est terminée, on partage un repas ensemble, c'est l'association qui le fournit parce que ce temps-là effectivement il est très très précieux pour un peu débriefer ou poursuivre un peu ce qu'on a vécu, le moment qu'on a partagé. Ensuite, le fonctionnement c'est que on est obligatoirement associé à une association intermédiaire, donc nous c'est la pige. Et quand on a tout fini, qu'on a mangé, on va à la pige directement, on se rend dans leurs locaux. Ils ont préparé des contrats de travail, des fiches de paye et la somme en espèces pour chacun des tapageurs. Et c'est là qu'on la leur remet. Donc ils signent leur contrat de travail, ils récupèrent leur somme et puis voilà. Et puis l'affaire est pliée et il n'y a plus trop à s'inquiéter pour le restant de la journée. C'est évident que c'est intéressant puisque l'expérience nous montre que des jeunes qui ont pu faire soit du travail de chouf ou même la manche pouvaient toucher des sommes plus conséquentes que 44 euros. Et pourtant, c'est à tapage qui venait participer. Donc, c'est parce que... Je pense que le fait qu'il y ait un début, une fin, qu'il y ait un sentiment qui contribue à regonfler un petit peu l'estime de soi, et puis que ce ne soit pas dangereux aussi, parce qu'être chouf dans une cité, ce n'est pas la sinécure non plus, hein, à tout moment on prend des risques. Tout ça fait que c'est un programme dans lequel je crois profondément et qui de toute façon fonctionne, puisque... La demande ne cesse et on aimerait pouvoir y répondre, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. On espère que ça évolue dans la bonne direction. Voilà, peut-être tu...
J'ai peut-être juste un dernier point moi, à rajouter, c'est que c'est sans engagement pour les tapageurs. C'est-à-dire que c'est que sur la base du volontariat, on va, comme a pu le dire Julie et Alexis, on fait des maraudes, on va à leur rencontre, on leur explique ce que c'est tapage. S'ils veulent venir le mercredi d'après, tant mieux. S'ils ne veulent pas, après on va essayer de comprendre pourquoi et pouvoir l'accompagner. Peut-être que des fois c'est juste des questions de logistique, que c'était le mauvais jour ou autre. Et donc on essaie de pouvoir les accompagner sur le long terme comme ça aussi, en leur laissant la liberté de venir ou non.
Tout à fait. Tu voulais rajouter un truc, toi ? Non ? Alors, comme on est assez... Ah, pardon.
Oh, vas-y.
Comme on est assez partisans des témoignages, hein, vous l'avez vu ce matin, on en a préparé quelques-uns, parce que de toute façon, c'est encore eux qui en parlent le mieux, je pense. Et du coup, il y a trois témoignages de tapageurs. Voilà. Alors, est-ce que ça va fonctionner ?
Qu'est-ce qui t'a motivé à participer ?
Désolée, la qualité du son est pas top. Je crois que la vidéo suivante est un peu mieux. Ouais. Et juste pour info, le jeune qui était interrogé là, parce que c'est intéressant d'en parler quand ça marche bien aussi, c'est un jeune qui a été, qu'on a rencontré, qui dormait, qui dormait à la rue. Qui après a fréquenté pas mal Qualia, l'hébergement d'urgence à la nuitée là, et du coup qu'on a essayé de remobiliser autant que faire se peut, maximum pour qu'il appelle le 115. Finalement, il a fini par intégrer un CHRS pour jeunes à Montpellier, Faré. Après on avait un peu perdu le lien puisque ça allait un peu mieux et qu'il pouvait se projeter autrement, mais je sais que de mémoire il a eu un contrat à durée indéterminée, je crois, dans un truc style feu vert ou Noroto, je sais plus trop. Sandra, peut-être tu... ouais, voilà, un truc comme ça. Donc c'est plutôt chouette. Bon, depuis je sais pas ce qu'il en est, mais voilà. Voilà, donc c'est un petit peu sympa de pouvoir raconter ça quand même. Allez, hop. Du coup, je vais faire éteindre les lumières, désolé. Mais voilà, hein. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Vous vouliez rajouter un mot pour la fin ? Non ?
Non, à part faire peut-être un petit résumé de tout ça. Du coup, Tapage, pour résumer, c'est un outil de réduction des risques pour les XAPA et les CARUD qui va permettre de pouvoir aller vers ces jeunes via les méthodes déjà utilisées par les CARUD, mais de pouvoir également les remobiliser sur ces temps de travail-là et de pouvoir, dans un premier temps, leur apporter un accès aux soins via les structures porteuses, donc les XAPA et les CARUD, mais également un accompagnement global grâce à tout un écosystème d'acteurs qui vont pouvoir graviter autour de chaque programme. Voilà, mais donc dans l'objectif de sortir les jeunes de leur situation et qu'ils se sentent mieux au quotidien.
Super bien résumé. Merci Pierre. Donc si toutefois vous avez des questions, ben, on sera ravis d'y répondre.
Il y a
ben
pas...
les... les 25 ans, du coup. Puisque une fois qu'ils ont passé les 25 ans, là, ils ne peuvent plus y participer. Mais oui, oui, si on les rencontre à 18, alors on commence à 18, nous, parce que... Alors, ce n'est pas le cas de tous les programmes. Il y a des programmes en France qui commencent à partir de 16 ans. Nous, ce n'est pas le cas parce que, ben, comme c'est un CARUD qui porte le programme et qu'on n'accueille pas de mineurs au sein même du CARUD, voilà, on se dit que la cohérence... Enfin bon. Et donc, si on les rencontre à 18 ans, ils peuvent faire tapage jusqu'à leurs 25 ans. Après, je souhaite qu'ils aient trouvé autre chose avant, parce qu'encore une fois, on est sur du tremplin et c'est ponctuel, quoi.
Et combien de
temps par an? Il n'y a pas de limite. Bah, de toute façon, on n'a jamais réussi à atteindre le seuil maximum. Donc, du coup, non, il n'y a pas vraiment de limite à notre niveau. Il y a des programmes en France, Pierre pourra en parler mieux que moi, mais qui sont vachement plus développés, où ils vont proposer un plateau par jour, en fait, même, non ?
Oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté là, mais dans l'idée, c'est qu'il y a différentes phases d'accompagnement tout au long d'un parcours du jeune. Donc, l'idée, c'est que dans la première phase, on va juste lui demander de s'il souhaite participer à quelques plateaux par-ci, par-là. On va dire qu'à partir de la phase 2, on va essayer de l'engager petit à petit sur plus de missions, toujours sous réserve qu'il veuille, hein, toujours dans l'état d'esprit de volontariat. On va essayer de lui augmenter le nombre d'heures, parce que l'idée derrière, c'est que pendant ces heures de travail-là, les éducateurs peuvent créer du lien avec ces jeunes et donc mieux les accompagner sur leurs besoins de soins et autres, de logement, d'administratif et judiciaire. Et je ne me rappelle plus la question. et donc du coup, non, il n'y a pas de limite d'heure. Après, l'idée, c'est que chaque programme va essayer de mobiliser le maximum de jeunes. Donc, il y a des programmes, par exemple, celui de Perpignan comme de Toulouse, ils font jusqu'à 5-6 plateaux de 4 heures par semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a des journées où ils ont des plateaux le matin et l'après-midi. Mais l'idée, c'est de faire tourner le maximum de jeunes et plutôt d'avoir une régularité dans les plateaux à lui proposer. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un rythme avec eux le plus possible. Mais il n'y a pas de limite d'heure. C'est-à-dire que s'il y a un tapageur sur un programme et qu'on a plus de 300 heures à lui proposer, bien, il pourra faire les 300 heures s'il le souhaite.
C'est
tout le monde. Tout le monde. En gros, même, par exemple, structures associatives, particuliers, les entreprises privées. Nous, on a des accords cadres, par exemple, avec la SNCF, Suez, Keolis et autres. Et l'idée, c'est à chaque fois de pouvoir créer des partenariats avec eux pour répondre à un de leurs besoins qui est non pourvu en tant qu'entreprise privée, mais également des missions qui ne vont pas nécessiter de compétences ou de savoir-faire spécifiques pour que ça soit vraiment à la portée de tous, même pour les éducateurs également. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir des missions trop compliquées pour pas que les jeunes se retrouvent face à une nouvelle échec ou confrontés à une nouvelle frustration. Donc on va vraiment trouver des missions soit ludiques, comme on a pu voir là, avec faire une fresque, mais généralement, ça peut être des missions comme du ramassage d'envol, de papier ou autre, des entretiens d'espaces verts, des petits travaux de peinture également, reboucher des petits trous, repeindre un mur. Donc voilà, on peut également intervenir du coup chez des particuliers qui font souvent appel à tapage dans d'autres territoires pour des déménagements, par exemple. Donc voilà.
Avec plaisir, merci.
Bonjour.
plaisir.
J'avais une question concernant le déploiement du dispositif sur le département.
Oui. Alors, du coup, la spécificité, c'est qu'à chaque fois, c'est porté par un XAPA ou un CARUD. Et c'est à la volonté d'un XAPA ou d'un CARUD qu'on va ouvrir un nouveau dispositif. Par là, c'est-à-dire que si dans une autre ville de l'Hérault, un XAPA ou un CARUD souhaite ouvrir un dispositif tapage, il rentre en contact avec nous. Nous, on va l'accompagner à remplir un dossier d'évaluation et d'auto-évaluation sur les besoins des jeunes, sur les capacités de développement, sur les ETP disponibles. Et après, ce dossier est communiqué à notre conseil d'administration de Tapage France, qui, lui, va juger si c'est pertinent ou non d'ouvrir un nouveau dispositif sur le territoire. Donc là, en Hérault, on n'a pas de nouvelles demandes actuellement. Là, on a eu des sollicitations pour Béziers et Cahors, par exemple, en Occitanie. Hein, je vous parle. Moi, j'accompagne l'Occitanie, donc j'ai une meilleure vision de ce territoire-là.
Après, il y a Nîmes aussi.
Oui, après, sinon, sur les dispositifs en Occitanie, nous avons donc Montauban, Moissac, Toulouse, Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Nîmes, Montpellier.
En revanche, oui, il est vrai que nous, pour l'instant, vous l'avez vu ce matin, j'ai intervenu aussi sur la partie accueil des femmes à la boutique. Donc, on a plusieurs missions et certains programmes sont dédiés qu'à tapage, certains programmes en France. Mais par contre, nous, ce n'est pas le cas. À la boutique, comme c'est une petite association et qu'on n'est pas une méga grande équipe, on fait les maraudes, l'accueil. Et puis, bon, Alexis et moi, on est référent du programme. Après, on tourne avec les membres de notre équipe. Quasiment l'intégralité des membres de l'équipe a participé au moins une fois à un plateau tapage. Ce qu'il faut savoir aussi, tant que j'y pense, c'est que quand on part sur un plateau de travail, la plupart du temps, c'est une équipe de 6 jeunes en moyenne et on est toujours 2 encadrants. Ça, c'est quelque chose qu'on a demandé. Ça ne se fait pas partout comme ça hein, en France, mais à Montpellier, nous, on a mis du sens là-dessus parce que pour avoir vécu déjà des situations où finalement un des jeunes était rattrapé par sa santé, ou un jeune qui avait besoin de prendre un traitement de substitution et qu'il l'a oublié, il faut faire machine arrière, donc on ne peut pas tout annuler, enfin ce serait dommage de tout annuler parce que la situation implique qu'on doit s'arrêter et qu'on est dans l'urgence. Donc on fait toujours le choix d'être deux encadrants pour pouvoir se répartir les tâches et puis pouvoir réagir au mieux, quoi. Voilà.
Merci à tous et à toutes.
Merci beaucoup. Merci.